Bonsoir, bienvenue pour cette dernière séance des Utopiales de cette première journée pour cette 14e édition. Je suis plutôt fier de vous présenter une soirée avec un des géants, un des poids lourds de la bande dessinée en France, Denis Bajram, qui va nous faire le plaisir de passer une petite heure avec nous, comme à la maison, comme dans son atelier. Donc l'idée, c'est que Denis nous explique un petit peu son travail, son cursus, pas tellement sur la bande dessinée elle-même, ni sur son œuvre, puisque ça, je vous donne rendez-vous pour une seconde rencontre samedi après-midi, mais plus sur ses techniques de travail, sur son historique par rapport au dessin, sur son amour du dessin. Et donc, il va travailler à la palette graphique. Je vais passer parmi vous pour, en même temps, le solliciter sur des questions techniques, parce que j'imagine qu'il y a quelques dessinateurs parmi vous. Donc le poids lourd de la bande dessinée française, à savoir plus d'un million d'albums vendus, un long métrage en préparation sur cette bombe qu'est Universal War, dont la deuxième série vient de commencer. Et sur cette édition des Utopiales, nous avons deux outils modernes à disposition. Et donc il y a deux outils ultra modernes pour les dessinateurs. Il y a d'un côté de la grande halle, en fait, il y a donc l'exposition de Raymond Poivet, qui en dessinant à l'encre en 1945 et en étant un des gros défenseurs de la première bande dessinée de science-fiction, nous explique dans son film qu'un jour, avec sa notoriété, il a pu enfin se mettre à un outil ultra-moderne, à savoir la pointe Bic. Et donc, à l'opposé de ce diapason, nous avons Denis Bajram qui va nous faire une démonstration de tablette graphique, donc peinture numérique. À toi, Denis, tu y es passé donc en 2001, et voilà, je te laisse la parole, et moi je vais passer parmi vous si vous avez des questions. On peut l'interrompre à tout moment, c'est comme si on était à la maison avec lui, il ne va pas nous payer une bière tout de suite, mais ça ne saurait tarder, et je descends avec vous et on va un peu l'embêter pendant qu'il travaille. D'accord ? À toi, Denis, merci.
Bonjour, on m'entend ? Est-ce qu'on m'entend ? Oui ? Ça résonne, non ? Je vais vous faire du Larsen. Ah, on m'entend pas beaucoup, c'est ça ? J'ai l'impression que le micro est descendu. C'est mieux, là ?
On entend bien ta barbe, mais on t'entend bien aussi.
Je vais faire Velcro avec le micro. Bon, on va y arriver, parce qu'en fait, il tombe. C'est le problème d'être un gros auteur, c'est qu'on a des grosses joues. Pour faire rapidement, j'ai été un des tout premiers auteurs de bande dessinée à basculer dans le numérique. Ça s'est passé peu de temps après le 11 septembre 2001. Et c'est plus ou moins lié au 11 septembre parce que j'ai vraiment eu ça m'a fait beaucoup réfléchir sur le travail que j'étais en train de faire, et en fait à ce moment là j'ai changé de technique de dessin. On était deux à basculer à peu près au même moment, il y avait Chris Lanquet, et on a été un peu pris pour des fous. Alors ce qui est drôle, c'est qu'en fait la première fois que j'ai montré comment je travaillais en numérique, c'était aux Utopiales en 2004 ici, depuis je l'ai montré à pas mal d'endroits, mais je me retrouve un peu comme une sorte de fin de tournée qu'aurait commencé ici il y a presque 10 ans.
Non, juste un retour aux sources, comme un saumon.
Oui, un gros saumon.
Un gros saumon.
Bien rose. Alors, quand on fait de la bande dessinée en numérique, en fait, on travaille comme on travaillait avant. Moi, j'ai commencé à l'époque où les ordinateurs n'étaient pas assez puissants pour qu'on envisage de dessiner dessus. On était vraiment au tout début de ces technologies. Le premier truc qui manquait au départ, c'était un outil pour pouvoir dessiner. Ça a l'air bête, mais pouvoir faire un trait qui ressemble à un trait de pinceau, c'était totalement impossible sur les ordinateurs avant les années 90. C'est Wacom, une marque japonaise, qui a inventé ça, au départ, pour que les calligraphes japonais puissent faire du dessin calligraphique, enfin donc de la calligraphie, écrire les lettres japonaises sans ordinateur. C'est une société maintenant qui est plutôt allemande, mais le brevet est japonais, et vraiment c'était la capacité de pouvoir faire, voilà. Alors, tout bêtement, le fin. Alors c'est même des tablettes, moi je n'utilise pas cette possibilité-là, qui savent dans quel sens est le stylo. Elles savent précisément. Donc on pourrait décider de faire une pseudo-lame biseautée qui réagirait en fonction de l'orientation, etc. C'est vraiment très puissant et très difficile à utiliser. Parce que ça a l'air de rien, mais là, quand je dessine, je ne sais pas si vous réalisez, j'ai la main d'un côté et l'œil de l'autre. Ça veut dire que mentalement, suis obligé de dessiner sans regarder ce que je dessine. Or, on a tous appris à dessiner au départ sur papier avec la pointe collée au dessin.
Il y a une petite question, justement.
Oui, bonsoir, Jean-Luc Briand-Saint-Nazaire. Il existe, d'abord, bravo pour votre travail, parce que je ne connaissais pas l'auteur, mais la bande dessinée. Donc, impact médiatique et iconique majeur de vos images, de votre BD, Universal War. Question, Wacom fait des tablettes à la fois écran plus tactile, donc le stylet, l'écran intégré, plus besoin d'avoir, on va dire, l'unité centrale avec son écran. Est-ce que vous n'utilisez pas ça?
Alors, j'allais y venir. La grande évolution qui a été... je vais remonter. J'ai l'impression que le micro passe son temps à tomber. La grande évolution qu'a connue la technologie, c'est qu'on a fait un jour quelqu'un qui s'est dit « je vais mettre l'écran directement dans la tablette ». Et de fait, maintenant, avec les derniers modèles, on a un truc vraiment formidable, c'est qu'on dessine directement sur l'écran avec une vraie finesse, etc. Il s'avère que moi, j'étais la génération qui n'avait pas le choix. Donc il a fallu que j'apprenne sur ces appareils-là. Et je me souviens très bien d'une rencontre avec Moebius, où il m'avait attrapé, j'étais tout jeune auteur, il m'avait attrapé par le col et m'avait dit « ah mais Denis, tu travailles beaucoup sur ordinateur, viens, faut qu'on discute ». Et on était tombés d'accord tous les deux qu'avec cet objet-là, on n'arriverait jamais à dessiner. C'était en 96, 97. C'est-à-dire que ça faisait 5-6 ans que lui, comme moi, on essayait de sortir un dessin correct. Alors que bon, Moebius, il avait une dextérité de la main hallucinante. Mais alors le petit exercice d'avoir l'œil et la main décalés, le cerveau n'arrivait pas à le faire, quoi. Et en fait, moi, j'ai basculé dans les années 2000 parce que, au départ, par accident... Je me suis retrouvé à devoir compléter des bouts de dessin qui manquaient quand je faisais de la couleur, des trucs comme ça. Et un jour, je me suis aperçu qu'en fait, finalement, ce que je croyais ne jamais pouvoir faire, j'avais réussi à le faire. Et je sais que Jean a basculé à peu près au même moment, parce qu'en fait, c'était simplement, il fallait, clairement, pour maîtriser le dessin là-dessus, il faut 10 ans d'exercice. Avec l'écran, tout ce qu'on a appris sur le papier est instantanément disponible. Donc on est une génération perdue, entre guillemets, nous, ceux qui avons dû apprendre avant l'écran tablette. Mais alors, c'est un énorme avantage. Parce que, de fait, vous voyez ma position. Alors, la position d'un dessinateur de bande dessinée, toute sa vie, c'est ça. C'est-à-dire le dos cassé, penché sur l'écran ou le papier, mais c'est la même chose, à faire comme ça. Résultat, à 70 ans, la moitié, ils ont une scoliose géante. Ils ne tiennent plus debout. Je me souviens d'avoir porté Roba, dessinateur de boule et bille, en descente de train, quoi, des trucs comme ça. Donc, je vais sans doute m'éviter la scoliose géante parce que chez moi, je suis au fond de mon fauteuil, confortablement installé. Deuxième truc génial, quand je dessine, je n'ai pas la main dans le dessin. Or, on connaît l'importance de l'équilibre, de la composition, des masses, du noir, du blanc, dans un dessin. Or, quand on dessine, on passe son temps à avoir une main dedans qui déforme cet équilibre. Et donc, en fait, j'ai accès directement au dessin final sans cette espèce d'ombre permanente dedans qu'est la main. Et moi, je pense que pour l'équilibre de mon dessin, ça a été un progrès gigantesque. Ça n'a pas l'air comme ça, mais je sais que je me suis accompli dans des choses que je ne faisais pas avant parce que j'ai arrêté d'avoir à droite cette masse en permanence qui était en train de tirer mon dessin. Voilà, donc ça c'est l'avantage de la vieille tablette à l'ancienne. Tout ce que je vais vous montrer est parfaitement faisable avec une tablette écran moderne. Hein. Mais je voulais juste vous expliquer un petit peu la bizarrerie qui est de travailler encore avec ça.
Bon, on va arrêter de t'embêter parce qu'à propos d'équilibre des noirs et blancs, là, pour l'instant, c'est assez déséquilibré.
Pour l'instant, c'est équilibré en blanc. Alors, une bande dessinée, c'est quoi? C'est déjà une narration. Une bande dessinée, elle commence à quoi? Elle commence quand on met deux cases côte à côte. Parce que si on fait un bonhomme, je vais vous faire de la grande bande dessinée, vous allez voir. Si on fait un bonhomme qui marche, comme ça, on a une illustration. Si on fait... le bonhomme qui tombe derrière, je vous fais des grands dessins là. On a un enchaînement, surtout si on symbolise bien des cases autour de ça, pour bien délimiter deux temporalités. Là, ça c'est un dessin. Ça c'est un dessin. Ça c'est une bande dessinée. C'est aussi bête que ça. C'est un truc qu'on ne dit jamais assez, mais la bande dessinée, elle commence à partir du moment où il y a deux dessins qui s'enchaînent et qu'on comprend le sens de cet enchaînement là. Alors ça peut être en opposition, en continuation, une séparation d'un mouvement, là c'est le moment basique. Évidemment, quand Hergé dessine le capitaine Haddock qui est en train de monter en courant un escalier d'accès à un avion et que l'image d'après, on voit une infirmière qui est en train de lui mettre des sparadraps dans l'avion, cette distance a été agrandie énormément. On est vraiment dans l'ellipse complète. mais c'est toujours le même procédé. En l'occurrence, la bande dessinée, elle se situe même exactement dans ce que les spécialistes ont appelé le blanc intericonique, donc le blanc qui passe entre deux images, le moment où se joue toute l'ellipse. C'est-à-dire que c'est le moment où le lecteur, ici, là, entre les deux cases, recompose ce qui s'est passé.
Et est-ce que tu, pour cet exercice et cette technique de la bande dessinée du récit lui-même, est-ce que tu renvoies à l'art invisible, par exemple, de Scott McCloud ?
Très bien.
Tu es d'accord avec ça ?
Extrêmement bonne analyse de pour ceux qui veulent se pencher là-dessus. Il ne fait que parler de ça au démarrage. Hein. Après, il va parler de ce que l'art en général, mais en tout cas, la partie sur la bande dessinée, il parle clairement de ce problème de l'ellipse. Notre métier dans l'ellipse. Alors bon, on est d'accord tous que ce n'est pas une ellipse très passionnante, là. Alors moi, je suis particulier, je suis auteur en bande dessinée, c'est-à-dire que je fais tout. Donc quand j'ai mon histoire, elle est sous forme d'un squelette narratif, c'est-à-dire que j'ai l'équivalent de, je sais pas, pour... Alors Universal War One et les deux suites, donc 18 tomes, je les ai écrits en 97, ça doit faire l'équivalent de 10 feuilles de papier. Bien, bien tassé. Il y a tout. Après, il y a quelques feuilles supplémentaires qui sont des notes de renvoi pour compléter certaines scènes que je considérais comme clés. Mais fondamentalement, je n'ai pas un scénario tel qu'on l'entendrait au cinéma ou en bande dessinée qui serait de décrire l'action case à case, tous les dialogues, etc. Cette partie-là, je le fais directement en planche. C'est-à-dire que c'est le moment où je me trouve face à mon truc et je fais, bon, alors, bon sang de bois, c'est une histoire qui se passe à Nantes, au Palais des Congrès... comment je vais faire ça, j'ai un vaisseau qui se pose, alors c'est une grande masse en haut, le palais des congrès il est comme ça, il y a le Novotel qui est là, ah ouais mais là ça fait qu'une case, alors là c'est le moment où l'informatique est géniale, on commence à déplacer, à réduire, à se dire je vais faire cette case là, là, une grande case en dessous ou à côté. Voilà, où il y aura quelqu'un qui va découvrir qu'il y a quelque chose qui se pose en criant « Ah !» Enfin, on fera un dialogue plus évolué après, mais... Et puis, en bas, il y aurait, je sais pas, il y a la panique, alors c'est une scène de foule, donc il y a des gens qui courent alors qu'il y a de la fumée qui arrive d'un côté.
Tu es en train de nous dire que tu as commencé Universal War comme ça ?
Chaque page est commencée comme ça. Chaque scène est commencée comme ça. C'est le moment clé où tout se met en place. Alors évidemment, ça, il n'y a que moi qui peux le relire, quasiment. Très vite, ça devient, déjà, là, je me dis que j'ai un petit texte, et puis je me dis que dans 3 minutes, je vais pas me souvenir de ce que c'est, alors je commence à un petit peu plus travailler, à poser des masses. Je me souviens que mon vaisseau, c'est un vaisseau triangulaire, alors je le mets triangulaire. Je me souviens que ça se passe de nuit, donc ce serait bien que j'ai une lune. Là, pour l'instant, elle est symbolique, mais ce sera une belle image après. Je me dis même, tiens, ce sera il y aura des ondes projetées parce que on sera dans un clair de lune assez intense. Donc tout de suite, je commence à me dire, tiens, la personne qui est en face sera peut-être en contre-jour. Puis après, je me dis, non, parce qu'en fait, on ne verra pas ses yeux. Alors, comment montrer qu'il est surpris autrement que par les yeux ? Donc je me dis, je remets la lumière en face, mais je garde un peu de noir sur le côté. Et réellement, c'est vraiment comme ça que ça avance. Alors ça avance comme ça, parfois sur un paquet de 5 pages, où je tâtonne, je mets des dessins, des bouts de dialogue, je commence à écrire des bouts de dialogue, des bouts de dessins, j'en reviens, je dépasse des cases, jusqu'à que j'arrive à un résultat dont je suis satisfait. Alors je le faisais sur papier avant, je le faisais en faisant des petits crobards, des petits crenés, ça m'arrivait de découper, puis je finissais par reconstituer des pauvres feuilles A4, avec des strips complets, que j'en crée un petit peu pour avoir un storyboard lisible. Alors storyboard, c'est un terme emprunté au cinéma qu'on ne devrait pas utiliser en bande dessinée, parce que finalement ce n'est qu'un brouillon de planche, ni plus ni moins. Alors là, oui, je me dis que je me souviens que c'est l'héroïne, par exemple. Alors, je commençais à mettre des cheveux. C'est bête, hein, mais... Et puis, un peu de lumière. Et puis là, je me dis que c'est bien bête. Alors, on rentre dans les moments où on équilibre. Que d'avoir une si grande case pour un gros plan, ce serait pas mal. C'est un peu idiot, alors que je pourrais avoir beaucoup plus de place sur le premier plan, ce qui me permettrait de représenter plus de choses. De déplacer ma lune. Et on a 2 lunes maintenant, on est sur Mars. Voilà. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment le travail. Cette étape-là, je vais vous montrer tout de suite ce qu'elle devient dès la deuxième étape. En général, c'est le moment où, avant même d'avoir un dessin plus affiné que ça, je commence à poser des dialogues. Ouh, superbe texte noir. Non, pourtant, je suis bon.
Sur l'album définitif, tu fais ton ancrage à la main ou c'est de la police ?
C'est une police de caractère. Bon, on va s'en fiche du texte parce que c'est pas très important vu la démonstration. Je réalise que j'ai pas de police de caractère sur celui-là d'ordinateur. Donc, alors, dans Photoshop, il y a les calques, outils extrêmement pratiques qui permettent de superposer sans fin. Donc là, je viens de le blanchir et puis je vais le mettre à 90%, ce qui fait qu'on voit un peu à travers. En tout cas, on voit suffisamment pour pouvoir se dire, je vais commencer à affiner ce visage tout de suite maintenant parce que je veux me souvenir jusqu'au bout de l'émotion que je vais mettre dessus. Donc, c'est le moment où on commence à dessiner. Réellement. Il m'arrive qu'à cette étape-là, je commence même à me lâcher parce que je veux vraiment voir un peu la tête qu'aura le dessin quand je l'aurai fini. Je vais vous montrer tout de suite après une étape de storyboard, comme ça vous verrez le résultat que ça donne. Parce que il faut savoir un truc, c'est que faire de la bande dessinée, c'est très long. Les storyboards, quand je fais des journées de 12-14 heures de travail, je fais 3 pages de storyboard par jour maximum. Donc, ne comptez pas que dans 10 minutes que je vais réserver à ça dans la démonstration, je puisse vous montrer autre chose que des petits dessins moches. Et il paraît que je suis un dessinateur rapide.
Ah, tiens, la salle qui est en train de se vider, là, du coup.
Alors, je vous montre ce que ça peut donner quelques minutes après. Vous allez tout de suite comprendre ce dont je parle. Parce que ce que je vais surtout vous montrer, c'est comment je dessine réellement après. C'était pour vous montrer un petit peu les étapes.
Alors en même temps, si on peut te poser quelques questions, s'il y a des questions dans la salle.
Il ne faut pas hésiter.
Moi j'aimerais. Tu mets combien de temps pour un album ? Alors hormis les 7 ans par rapport à Universal War, mais donc un album ?
Alors un album, je peux vous donner pour le dernier album, parce que j'en sors. Donc je l'ai commencé en décembre dernier. Et je l'ai fini mi-juillet. J'ai travaillé 12 à 14 heures par jour et je n'ai pas pris un jour d'arrêt. Donc c'est un travail gigantesque. Si j'avais fait ça dans un horaire de salarié, ça aurait été 3 ans de boulot, quoi. C'est vraiment... voilà, ça c'est mes storyboards. Oula, pardon. Oh ben, on s'en fiche, ça marche. Vous voyez, on retrouve les petits dessins, bébêtes. C'est vraiment... Allez, des fois, c'est un peu plus poussé. Et puis, surtout, il y a une petite table que je n'ai pas faite, mais je commence à mettre des valeurs de gris, même, pour avoir le pré-réglage du dessin. Ces dessins-là, ils vont me servir même de crayonné. C'est-à-dire que moi, j'ancre directement là-dessus. Il n'y a pas d'étape de dessin supplémentaire. C'est là où c'est très particulier. Parce qu'à l'époque du papier, j'aurais fait un crayonné très précis... Parce que l'étape de l'ancrage, qui était de prendre son joli pinceau et de suivre et d'avoir un trait parfait, si on loupait son trait, on pouvait éventuellement gratter le papier ou mettre un peu de blanc, mais on ne faisait pas ça trois fois d'affilée. À l'ordinateur, je peux prendre le risque de refaire mon ancrage autant de fois qu'il le faut pour obtenir le bon dessin. Alors, pour vous montrer une idée, je vais vous montrer cette planche-là en définitive, comme ça vous allez voir le petit chemin qu'on va parcourir rapidement.
Sur cette planche, on voit par exemple quelques vaisseaux, quelques engins par exemple. Est-ce que du coup, ça t'oblige à faire des recherches des planches de croquis ou autres? Ou par exemple, l'engin que l'on voit dans la case est le seul engin de la page et la version définitive directement?
En fait, je cherche tout au moment du storyboard. Les designs, enfin les costumes, les têtes de personnages, même quand c'est le nouveau personnage. C'est dans cette étape de brouillon, je mets tout au point en même temps. Parce qu'en fait, pour moi, la bande dessinée, j'ai appris à dessiner pour raconter des histoires. J'ai jamais été un dessinateur dans l'absolu, quoi. Et pour moi, la bande dessinée, c'est un tout. C'est un tout que je dois concevoir dans un seul mouvement. Pour moi, c'est le seul moyen de ne pas perdre en intensité, en sortant d'une sorte de processus créatif continu. Alors, je sais bien que les 80% des albums sont faits par un scénariste et un dessinateur séparés. Donc, immédiatement, on rentre dans un processus un peu industriel où il faut avoir un scénario précis. Et puis derrière, le dessinateur fait un storyboard qui monte à son scénariste. Enfin, il y a des échanges, etc. Moi, je n'ai pas ce problème d'échange. J'ai ces échanges qui sont avec moi-même. Donc, j'ai tout intérêt à essayer de tout faire dans un seul flux continu. Parce que ça assure que les intentions de départ, l'émotion que je peux avoir au moment où je commence à penser à une scène, va se retrouver au dernier moment sur la case couleur finale. Arleston, scénariste escroc en bande dessinée. Donc je vais vous montrer maintenant, j'ai passé directement à une phase de dessin parce que c'est la partie la plus curieuse. Alors, typiquement, j'ai deux manières de dessiner. Ou je dessine au trait comme j'ai fait sur Universal War, ou je dessine en couleur directe. Moi, je vais vous montrer un dessin en couleur directe parce que c'est plus spectaculaire. L'ancrage est très long, très laborieux, on s'y reprend à plein de fois. Je vais vous montrer du travail en couleur directe directement parce que c'est beaucoup plus parlant, quoi. Alors, à la limite, je vais partir de ça parce que ça vaut tout autre truc pour démarrer. Je vais me remettre un calque, je vais le re-remplir, et puis je vais y aller. Alors, il n'y a rien de plus simple pour dessiner pour moi que de prendre un stylo, une couleur, et faire ça. À part que je ne fais jamais ça. Je prends mon stylo et je le mets à. Je le rends semi-transparent pour. Où est-ce que ça se règle là-dessus? Voilà, c'est là. C'est pas ma version Photoshop habituelle, donc je cherche un petit peu. Je le mets à 30% d'opacité. Résultat, ça ne marche pas. Comme vous pouvez le voir, pour obtenir la même couleur que tout à l'heure, il faut que je passe un sacré paquet de fois. Et bien, ça m'arrange. Je vais remettre ce calque. Oh là là, ouh là là. Il fallait pas toucher. Bon.
Chez toi, tu travailles sur Mac ou PC alors ?
Je travaille sur Mac. Je travaille sur deux écrans. J'ai toutes mes tablettes ouvertes d'un côté à côté et le dessin tout seul de l'autre. Donc, j'ai pas tout ce truc-là qui m'encombre le dessin. Donc, je vais remettre un petit. On va remontrer un petit peu ce que j'ai en dessous là. Ah, typiquement, si je voulais la faire en illustration. Bah déjà, je passerai ma couleur de fond. Alors là, c'est le moment où je m'autoriserai peut-être à la passer bien solide, ce qu'on va faire en trichant, comme des sauvages, parce qu'on va aller vite. Donc, me dire que je vais avoir voilà, une couleur de fond et que je vais peindre sur cette couleur-là. Alors, je vois un peu trop le dessin en dessous, je vais le garder... Voilà. Donc je vais prendre, par exemple, parce que c'est de la peau, je vais prendre une espèce de couleur au hasard. Alors, vous voyez, mon jaune, qu'on voit là, il a du mal à monter. Et ça m'arrange. Vous allez vite comprendre pourquoi. Bon, une peau, c'est pas jaune, donc je vais chercher un peu de rouge. Et je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe, c'est que lentement et sûrement... Je commence à avoir des couleurs qui se mélangent. Alors pourquoi elles se mélangent? Parce que je n'ai pas à 30%, donc on voit la couleur d'en dessous. Et quand on appuie sur ta touche Alt, son outil, son pinceau devient une pipette, donc on peut récupérer la couleur qui est en dessous. Résultat, regardez bien là, quand je clique. Donc si je passe cette couleur là et que je récupère, j'ai dans le pinceau la couleur mélangée. Ce qui fait quand je la passe là, et ainsi de suite. Donc par exemple, si je travaille avec du noir, c'est pas violent. Je vais récupérer un peu de rouge, je le contre-teinte. Ça a du mal à venir avec 30%. Vous allez comprendre l'avantage bientôt. Alors, je peux récupérer du blanc et du noir avec une combinaison de clavier. Hein. C'est pour ça que vous ne voyez pas les picorer à chaque fois. Mais c'est juste... Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe. Ça commence à ressembler à de la peinture. lentement mais sûrement, et puis particulièrement si on s'éloigne. Et il y a une raison à ça, c'est que c'est peint. Vous ne m'avez pas vu une seule fois faire autre chose que de donner des touches. Cette technique-là, moi je l'ai choisie parce qu'en fait elle ressemble à ce que je faisais quand je faisais de la gouache ou de l'acrylique. C'est-à-dire, quand on prend de la peinture dans un tube et qu'on la passe sur une surface de papier, elle n'est pas opaque. Si on veut avoir un jaune parfait, on est obligé de le passer 3 fois, 4 fois. Si on veut faire des mélanges, on mélange les couleurs. Et vraiment, le but de cette méthode-là, c'est vraiment de créer ces couleurs, de créer ces teintes comme ça, à la volée, directement dans le dessin. N'hésitez surtout pas à poser des questions.
Tu parles de gouache et d'acrylique. Est-ce que tu peins encore sur papier?
Alors, en fait, j'ai plus de table à dessin à la maison depuis 10 ans. J'ai totalement arrêté. Mais je fais encore un peu de toile de temps en temps. Cet été, par exemple, j'ai mon Mac qui est tombé en panne, mon gros. Et le temps de récupérer ce qu'il fallait pour le réparer, parce que c'est la carte vidéo qui avait cramé, j'ai refait une toile. Voilà. Donc, en gros, s'il y a une panne d'électricité à la maison, je fais de la peinture. Donc, comme on est en France et qu'il n'y a pas beaucoup de panne d'électricité, je ne fais pas beaucoup de peinture.
Et vous n'utilisez pas d'autres brosses qu'un cercle classique?
En fait, ça dépend du rendu que je veux. C'est-à-dire que j'utilise deux brosses, ou une brosse propre comme celle-là. Mes couleurs dans Universal War One, je viens de repasser le calque à fond. Mes couleurs dans Universal War One sont des couleurs entre guillemets propres comme ça, ou alors une brosse très sale, qui a des trous. Quand je veux avoir un rendu plus matiéré, celle que j'utilisais dans Trois Christes, pour ceux qui ont vu, qui est un album qui était quasiment impressionniste, parce qu'en fait, simplement, l'outil était bouffé au mythe. Donc, c'était encore plus dur d'obtenir une matière, donc il fallait que je repasse plein de fois.
Et tu fais tes propres brosses?
Cette brosse-là, je l'ai fait, j'en ai fait une, et puis je m'en sers depuis 10 ans.
Avec une version d'une vignette, par exemple, de BD cernée, le noir serait où à ce moment-là?
En fait, j'aurais le noir qui serait par-dessus. Je serais en train de peindre sous le trait, ce qui serait, entre guillemets, du remplissage, à part que j'aurais exactement la même technique de peinture, quoi. Mais par-dessus, on aurait déjà eu un ancrage qui aurait été le cerné de BD. Qui est-ce qui pose la question?
Là, c'était encore moi.
C'était toi, pardon, j'ai pas reconnu. J'ai pas reconnu ta voix.
Si vous avez des questions, je sais pas. Qu'est-ce qu'il écoute comme musique, par exemple, quand il dessine?
Vas-y. Alors, le matin, j'écoute France Culture. Et l'après-midi, j'écoute vraiment de tout. J'ai un ordinateur rempli de mes CD qui se veut la musique classique au hard rock le plus sauvage. Donc,
Pardon? Quel est votre contexte de travail? Vous travaillez toujours derrière un bureau devant les deux écrans ou des fois en extérieur ou,
Non, je travaille que à la maison. La concentration que ça nécessite fait que j'ai besoin d'un poste de travail parfaitement équilibré au point, mon fauteuil confortable. J'ai des douleurs de dos malgré ce que je disais sur la position à cause d'un fauteuil que j'ai dû changer par exemple. Parce que même assis au fond, j'avais les lombaires mal tenues par un fauteuil, je m'en suis pas aperçu. Au bout de 2 ans, j'ai commencé à avoir des grosses douleurs. Donc c'est quand même rester assis 14 heures dans une journée, puis le lendemain, puis le surlendemain, puis comme ça pendant 9 mois, il y a sacrément intérêt à être bien installé, quoi. Donc c'est à la maison, avec mon petit univers. Alors il y a un truc particulier, c'est que dans mon dos, j'ai ma femme, qui est scénariste de bande dessinée. On partage le même atelier, qui est assis là. Et donc je suis très, très au boulot, mais on discute de temps en temps, évidemment.
Et à ce propos, d'ailleurs, quand on travaille, quand il y a deux géants de la BD dans la même pièce, ça se passe comment? On a toujours une tentation d'aller, entre guillemets, critiquer ou faire une petite correction sur le travail de l'autre, ou chacun son...
Non, moi je demande son avis à Valérie quand j'ai un doute sur la compréhension d'une image. Il m'arrive souvent de me dire, est-ce que c'est bien clair, parce que je fais quand même des trucs très bizarres dans Universal War One. Ça a l'air simple comme ça, une fois que c'est dessiné, mais une planète coupée en deux, c'est pas un truc si évident que ça en dessin. Ça peut vite ressembler à une grosse orange, par exemple. La première fois que j'avais dessiné Uranus coupé en deux, je l'avais fait orange, comme ça. Il y avait des vaisseaux qui arrivaient, on avait vraiment l'impression qu'ils allaient trouver un pressoir géant et se faire un jus d'orange pour le petit-déj. Donc c'est le genre d'image, ça, clairement, que je montre à Valérie pour lui dire, est-ce que c'est crédible, est-ce que toi, en tant que lecteur lambda arrivant dans le truc, t'aurais une vision. Parce que ce qui est très dur, c'est quand on a passé 5 heures, 6 heures sur un dessin, c'est d'avoir toujours l'œil neuf dessus, ce qui n'est jamais le cas. Donc moi, il n'y a jamais un dessin, par exemple, qui sort de l'atelier sans avoir une journée de recul. C'est urgent, c'est pour demain, désolé, c'est pour après-demain. Je le fais le soir, le lendemain matin, je le re-regarde. S'il faut, je le corrige, et puis là, je le renvoie seulement dans l'après-midi. Parce que... Alors, une page, c'est 4 jours, donc moi, je suis à 7-8 cases par page. Donc, il m'arrive de passer, par exemple, 3 jours sur la même case. Il y a des cases de décor, on passe 3 jours sur un dessin. Mais on ne voit plus rien à la fin. Le seul truc qu'on voit, c'est qu'on en a marre, quoi. Enfin, c'est de dessiner des petits gratte-ciel ou des petits immeubles. Et on n'a plus aucun recul sur l'image, on perd tout sens de l'esthétique. Alors, si on n'a pas, au départ, complètement balisé le travail pour être sûr que le résultat soit esthétique, on peut se retrouver avec un truc très moche sans s'en rendre compte. Qu'on découvre 5 jours après, en ouvrant la planche, en disant « Oh mon Dieu, j'ai passé 3 jours à faire une merde. » C'est ce qui arrive. Hélas, même avec du métier.
Et lorsque tu travailles sur une page, en fait, tu laisses le dessin dans la page complète ou tu travailles case après case ?
Non, alors je fais de la bande dessinée, donc je laisse tous les dessins ensemble, je travaille la planche d'un seul tenant. Et il m'arrive même de travailler plusieurs planches d'un seul tenant en même temps, les doubles par exemple, ou une séquence, pour vraiment avoir un ensemble cohérent. Parce que si je travaille case par case, ce que font d'autres personnes, dont Bilal, il y a une petite tendance à vouloir faire chaque case de manière ultime. Or, c'est pas ça le but. Le but est de raconter une histoire.
Oui, là, tu parlais de cohérence et Bilal dans la même phrase, c'est vrai.
Non. Il a un sacré métier, Bilal. Donc, moi, je trouve qu'en travaillant de manière séparée, il sait garder une cohérence de planche. Mais ça pousse quand même à la performance artistique de faire séparément, inévitablement. Et mon but, moi, c'est pas de faire des beaux dessins. Hein, encore une fois, c'est de faire des beaux albums. Par exemple, je dis toujours que les gens me disent « Alors, oh, mais t'as arrêté de faire des originaux, des planches. » Alors, c'est un petit inconvénient. C'est vrai que c'est un petit revenu de complément de vendre ces planches. J'ai la chance de pas avoir besoin de ce revenu-là. Donc, pour moi, c'est que des avantages. Parce que la planche était un objet en soi qu'on a toujours tendance à soigner alors que ça n'a aucun intérêt. Quand vous achetez un de mes albums, vous achetez l'œuvre originale pour moi. Mon seul but, c'est de faire des livres de bande dessinée. Chaque album est l'œuvre définitive originale. Tout ce qui est avant, c'est du déchet de production. Dans l'absolu, les planches, elles devraient finir à la poubelle en même temps que les CD-ROM ou que les rognures de gomme. Quoi. C'est pas, ça n'a aucun intérêt en soi. Alors après, entre amateurs, avoir une planche originale pour regarder comment le dessin a été fait, il peut y avoir un petit intérêt technique. Mais dans l'absolu, la bande dessinée, l'œuvre, la vraie et l'unique œuvre, c'est l'album fini. Quoi.
Je savais que tu étais un peu radical. Comme.
Mais quelque part, moi, c'est la différence entre les arts populaires, les arts mineurs, comme disait Gainsbourg, et les arts majeurs et le grand art. C'est quand on fait de l'art, on travaille pour un commanditaire souvent, voire pour le roi dans le temps, alors que quand on fait des arts pop, on travaille pour tout le monde. C'est vraiment une question de choix. Moi, mes productions, elles sont populaires au sens où n'importe qui, entre guillemets, même si ça coûte un peu cher un album, mais même en allant à la bibliothèque, à la limite, peut se procurer et accéder à mon travail. Un peintre, il fait quelque chose d'unique, qui sera accessible qu'au milliardaire ou au musée qui pourra s'offrir l'œuvre. C'est vraiment une autre démarche. Et ça va avec une manière de faire. En art pop, il n'y a pas de clé. C'est destiné à tout le monde. En art populaire, en art, et particulièrement en art contemporain, si on n'a pas les clés, on ne comprend rien. C'est vraiment deux démarches très différentes. Quoi.
Alors, tu parles de la bande dessinée. Tu peux nous, juste une petite anecdote pour nous donner envie de revenir samedi après-midi, t'écouter plus longuement. Une petite anecdote sur tes premières bandes dessinées.
Celle que je faisais quand j'avais 8 ans.
Par exemple.
Ouais. En fait, donc, j'ai dit que j'ai appris à dessiner pour faire de la bande dessinée. Et en fait, mes vieux dessins à la maison sont des bandes dessinées de 20 pages. Et des bandes dessinées de Goldorak, en l'occurrence. Parce que j'avais 8-9 ans, ça passait à la télé, j'étais fou, je racontais mes propres histoires de Goldorak. Et puis, un ou deux ans après, j'ai commencé à me dire que je pouvais avoir mes propres personnages. Mais alors, c'était l'inspiration des dernières lectures. Donc, les 20 premières pages, c'est l'histoire d'un gosse qui conduit une voiture de course que je venais de lire à Michel Vaillant. Et puis, bon, ça commençait à m'emmerder. Donc, très vite, ça passait à autre chose. Et puis, à la fin, on s'apercevait que Il était par exemple le roi de l'Atlantide. Enfin bon, le truc n'avait rien à voir, mais c'était toujours une fois, encore une fois, c'était dessiné pour raconter. Et puis en vieillissant, j'ai commencé à comprendre qu'une histoire, ça s'écrivait avant, ça se préparait avant. Alors je vais vous montrer l'étape d'après, parce que là, c'est rigolo cette étape-là. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, un dessin, c'est la finition, évidemment. Là, je travaille avec un très gros pinceau. Évidemment, il va falloir un moment commencer à affiner tout ça. La particularité informatique, c'est qu'au mieux de se pencher sur son dessin à s'en briser le dos, on zoome. Ce qui est quand même extrêmement agréable. C'est comme ça qu'on peut faire des yeux avec des jolis petits reflets, etc. Qui demandaient tant de travail avec la technique traditionnelle parce qu'on était en train de faire du dessin en millimètres. Alors, il y a un truc que j'ai mis du temps à comprendre, c'est qu'en fait, un dessin, fallait pas entièrement le... ça ne servait à rien qu'il soit précis partout. Ce qui est important, c'est qu'il soit précis là où l'être humain a l'habitude de regarder. On regarde les visages, on regarde les yeux, on regarde les commissures de lèvres, parce que c'est toute l'expression d'un visage passe par ce genre de choses. On regarde jamais une joue, on regarde quasiment jamais un bras. C'est-à-dire que les bras, on pourrait les faire avec 4 coups de crayon, à la limite, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est la pose du bras, c'est pas le dessin des muscles. Qui regarde les muscles sur les gens dans la rue, quoi. Alors les dessinateurs, il y a la petite manie de vouloir être parfait. On a toujours tendance à vouloir tout faire parfaitement. Alors ça n'a aucun intérêt, particulièrement bande dessinée, puisque alors il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est qu'on s'aperçoit quand on regarde des gens lire de la bande dessinée, donc on a mis des caméras pour observer les yeux, qu'en fait les gens ne lisent que les textes. Donc lire un album de bande dessinée, c'est lire les textes. Et les dessins, ils sont vus en vue périphérique, dans le coin de l'œil. Donc c'est vraiment c'est pour ça que moi je continue à faire de l'ancrage. Parce que l'ancrage fait que le dessin est très lisible. On comprend très bien qu'il y a un bonhomme au premier plan, un décor à l'arrière-plan, etc. Alors que quand on fait de la peinture, tout se noie un peu dans la lumière et le dessin est moins lisible. Or, pour un dessin qui est lu en un millième de seconde entre deux bulles, il y a sacrément intérêt à ce qu'il soit compréhensible. Quelque part, le dessin de bande dessinée idéal, dans l'absolu, ce serait de faire du dessin de panneaux autoroutiers, quoi. Vous voyez les superbes panneaux qu'on voit sur le bord de route, mais ils sont faits pour être vus à 130 km/h, quoi. Donc ce serait des pictogrammes comme sur les WC, etc. Bon, alors pour l'expression des sentiments, c'est pas terrible, donc on est obligé d'aller un peu plus loin. Et puis moi, après, j'ai un goût de dessinateur et d'illustrateur qui fait que je renourris ce dessin de pictogramme idéal d'une matière de dessinateur, quoi. Mais c'est vraiment ce compromis-là que je recherche systématiquement.
Comment vous êtes arrivé à une capacité de travail de 12 à 14 heures par jour? Ça me paraît énorme. Et est-ce que, par exemple, quand vous aviez 18 ans, vous étiez capable de cette concentration-là ou pas du tout?
Alors, en dessin, j'en étais pas capable. Je pense que passé 8 heures, je craquais. Alors, la durée, j'ai pas le choix. Le problème, c'est que je fais de la bande dessinée, je m'occupe d'un petit studio de jeux vidéo. Il y a l'adaptation en film qui est en train de se faire, donc ça me prend un peu de temps. Je suis directeur artistique pour certains trucs dans la maison d'édition, etc. Donc de fait, mes journées sont dévorées comme ça. Donc la bande dessinée, c'est très long. Donc j'ai 8 mois par an maximum pour en faire, et je suis obligé de faire en 8 mois ce que beaucoup de gens vont faire en un an, voire en un an et demi. Donc voilà, j'ai pas eu le choix. Alors il s'avère que j'habite à la campagne, enfin dans une toute petite ville, c'est très calme, il n'y a rien d'autre à foutre. Dans ces périodes-là, il y a une partie de ma vie qui est prise en charge par mon épouse, qui me dégage un peu de certaines contraintes quotidiennes. Et puis, j'adore ça, donc c'est pas un problème, quoi. Évidemment, je serais en train de cachetonner des lettres à la poste pendant 12 heures. J'aurais envie de tuer des gens en sortant du travail, il n'y a pas de doute. Mais là, je passe mon temps à faire des choses que j'aime, avec la musique que j'aime, la femme que j'aime, dans une ville calme. Où les gens se tiennent la porte dans les rares moments où je sors dans la journée.
Ça te permet juste de faire exploser des planètes entières, du coup.
Voilà. Ce calme me permet de faire exploser tranquillement les planètes, exactement. Et quand j'habitais à Bruxelles ou à Paris, c'est vrai que je ne pouvais pas dessiner autant dans la journée. Parce que le bruit de la ville, déjà, était une perturbation. J'avais pas cette espèce de relâchement comme ça. C'est une vie de moine, en fait, hein. Je passe 12 heures ou 14 heures à prier devant ma table à dessin, par certains côtés. C'est-à-dire à être concentré dans un seul mouvement, comme ça, à tel point que, par exemple, si le matin, il y a un problème chez l'éditeur qui me stresse, je vais avoir du mal à dessiner l'après-midi. C'est vraiment lié à un rythme très long, comme ça. Donc, si le matin, chez l'éditeur, il y a un pépin sur un des bouquins, sur un Alex Sénator, par exemple, dont je fais la direction artistique, L'après-midi, j'en profitais pour régler des tas de problèmes techniques qui traînaient et je m'en mettrais au dessin calmement le lendemain, quoi, en coupant le téléphone. Voilà. Et il y avait une autre partie de la question qui était... Je ne sais plus.
Est-ce que vous avez déjà eu des gros ras-le-bol de dessiner un moment ou un autre dans votre vie ?
Oui, j'en ai eu un énorme sur Universal War One, ma série de SF, qui fait que j'ai arrêté 7 ans cette série. Qui était un ras-le-bol de dessinateur de science-fiction. C'est-à-dire que dessiner en permanence des vaisseaux, des planètes brisées en deux, des types qui tirent la tronche parce que c'est la fin du monde, jamais un cheval, jamais un brin d'herbe, jamais un bout de ciel bleu, c'était vraiment insupportable à un moment. Je me suis retrouvé à vivre 12 heures par jour dans une sorte de prison spatiale, en fait. Et au bout de... Ça m'a pris les 8 ans pour faire la première série, et au bout de ce temps-là, j'en pouvais vraiment plus. C'est pour ça que j'ai fait deux albums qui n'avaient rien à voir, hein, qui se passaient au Moyen-Âge, et un contemporain pour me ressourcer en tant que dessinateur. Donc oui, il y a des moments où c'est... surtout que je ne fais pas les choses à moitié, c'est vraiment un travail de passion, et... Oula, les dents ne sont pas belles. Vous voyez, de temps en temps, quand on travaille trop près, on fait des erreurs de dessin qu'on ne voit pas.
Étant donné que l'informatique est vraiment très puissante, vous n'avez pas envie justement de pouvoir refaire à la limite tous vos albums ?
Non, parce que non pas que j'aurais pas envie dans l'absolu, mais je suis un grand fan d'Hergé et je suis pas obligatoirement convaincu des albums qu'il a refait. Il a refait des albums qu'il avait fait très jeune, il les a refait très tardivement et à l'arrivée on est passé d'albums naïfs à des albums trop professionnels entre guillemets, trop charpentés par le studio. Donc ça donne pas particulièrement envie de refaire les albums parce que j'ai l'impression que je dessécherai. Il y a une sorte de, Qui a posé la question ? Ah voilà. Il y a une sorte de spontanéité quand on fait un livre et le refaire, c'est le meilleur moyen de faire un album de papier glacé, quoi. Enfin, le truc que j'ai vraiment pas envie de faire, en fait. Avant de faire de la science-fiction, mon but, c'est de faire des histoires humaines, en fait, quand je fais des albums de BD. Raconter une histoire, pour moi, c'est raconter une histoire d'être humain, quoi. Des histoires de vaisseaux ou des histoires de planètes, ça n'a aucun intérêt dans l'absolu, quoi. C'est un décor à tout ça. Quand je fais une bataille de vaisseau spatial, c'est pour le spectacle. Mais si on ne sait pas qui est aux manettes des vaisseaux, je trouve que tout de suite, ça devient quelque chose de creux, de sans âme. Donc vraiment, c'est le... Voilà, j'aurais peur de... Le truc le plus dangereux, c'est de se dessécher et de devenir formaliste. Ah, vous voyez, c'est assez long quand on rentre dans les finitions, parce que c'est le moment où Donc on a une intuition sur un visage, et puis le moment où on veut le terminer, c'est un peu sans fin, quoi. Surtout quand on a mal préparé son dessin parce qu'on est en train de discuter avec le public. Évidemment, à la maison, je suis un peu plus concentré.
Est-ce que vous travaillez avec des références ?
Ça dépend ce qu'on appelle des références.
Des photos, des trucs comme ça.
Non, jamais. Alors j'ai la chance d'avoir une mémoire photographique. Donc de fait, travailler des photos, je travaille sans photos parce que j'ai les photos dans la tête. C'est vrai que je vois un truc une fois, normalement j'ai pas besoin de reprendre un document pour le redessiner. Ça, c'est une certaine facilité. En plus, en science-fiction, l'air de rien, les modèles n'existent pas trop. Donc j'ai pas besoin. Et puis alors après, je me fie beaucoup de. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec des dessins d'autres personnes ouverts devant le nez, parce que ça les inspire. Mais j'essaie de développer vraiment mon propre monde, donc j'évite de faire ça.
Justement, où est-ce que vous trouvez l'inspiration pour renouveler et trouver de l'originalité dans ce que vous faites ? C'est la lecture, c'est...
Alors, pour ça, je posais la question sur les références tout à l'heure, parce que, en fait, j'ai des références, évidemment, j'en ai des milliers. Ce que je fais, c'est le produit de tout ce que j'ai lu, entendu, vu pendant toute ma vie. Donc, je ne dirais pas que je suis quelqu'un qui n'a pas de références, bien au contraire. En SF, j'ai des références romanesques très fortes. En dessin, j'ai des tonnes d'auteurs que j'ai admirés, donc ils ressortent dans mon travail, inévitablement. Jamais directement. C'est-à-dire, j'essaie toujours qu'il y ait un temps de maturation sur les choses. Je dirais même que quand je vois quelque chose que j'ai l'impression de déjà connaître, je vais essayer de passer à droite ou à gauche. Une scène déjà faite, un dessin qui me rappelle un dessin que j'ai vu, etc. Je me dis toujours, ok, c'est déjà fait, faisons autre chose. Donc j'ai des références qui me nourrissent très fortes, que je peux citer, il y en a des milliers. Mais à côté, je n'ai pas de référence directe au sens où je les rejette quasiment instantanément si je les reconnais.
Et entre deux albums, tu t'accordes un peu de vacances ?
Eh bien, j'aimerais bien, mais non. De fait, non. Les dernières vacances, c'était il y a 4 ans. Ben, j'exagère, j'ai eu une journée de repos depuis novembre dernier, parce qu'on est parti à Rome pour Alix, et j'ai réussi pendant une journée à faire le touriste. Donc, mais ce n'est pas un problème, parce que, encore une fois, je pense que la petite ville de province au bord de la mer où j'habite et le rythme de vie que j'ai, c'est le rêve d'énormément de gens de pouvoir vivre ça pendant leurs vacances, quoi. Alors, peut-être pas 12 heures, il y a des fois où j'aimerais bien, en effet, avoir un peu plus de temps pour moi, mais c'est pas un... Le seul truc qui se passe, c'est que je suis parfois un peu fatigué. C'est vrai que le fait de ne pas pouvoir, à des moments, pendant 3 jours, je sais pas, faire du jeu vidéo ou aller me rouler dans le sable, ça peut peser un peu sur les nerfs, quoi, mais bon. Mais c'est un peu un tempérament de qu'on retrouve souvent dans le cinéma, où pareil, ce sont des boulimiques de travail, les réalisateurs. Moi, j'ai la chance de ne pas devoir me taper les 200 personnes de l'équipe à diriger en plus, quoi. J'ai un peu j'ai juste mes petites tensions à moi et parfois des discussions avec Valérie à gérer, donc ça, c'est pas un problème, quoi.
Est-ce qu'avec les possibilités qu'offre l'informatique, on n'a pas une tentation de faire du copier-coller ? Prendre ce visage, je le copie, je le colle, et puis je repars de l'image collée pour en reproduire un autre ?
Je sais pas qui a parlé. Ah oui, là-bas. Je fais du copier-coller assez souvent. Si un décor, dans un décor, j'ai un motif répétitif, je vois aucune raison de me taper à le redessiner. Surtout en science-fiction, où le but, c'est d'avoir des motifs répétitifs, rectilignes, très, très propres. Mais c'est uniquement dans ce cas-là. Il s'avère que c'est des copier-coller que je faisais avant le copier-coller, puisqu'en fait, quand je faisais des planches papier, si j'avais ce genre de motif, j'allais à la photocopieuse, je photocopiais mon premier dessin et je le répétais genre un hangar avec des vaisseaux assez identiques garés. En axonométrie, on peut s'amuser. Donc j'ai des planches des années 90 où on voit du copier-coller avant l'heure avec la photocopieuse. Donc c'est vraiment ce même usage, et parfois un petit bout de décor qu'on réutilise parce qu'on sait que vraiment personne ne le verra, qu'en plus on va le passer de nuit, donc on va le réancrer partiellement, etc. Voilà, c'est ce genre d'usage. Je n'ai pas d'abus. Je ne fais pas plus de copier-coller qu'avant. C'est toujours... En fait, quelque part, je ne sais pas si vous voyez, mais je ne fais... Vous avez vu le peu d'outils que j'utilise ? J'utilise donc un quart de millième de pourcent des capacités de Photoshop. Quelque part, je travaille exactement comme je travaillais avant sur papier. La grande différence, elle est que je peux travailler plus longtemps sur le même support sans qu'il fatigue, ce qu'on ne peut pas faire en peinture, que je peux prendre des risques, donc à cause de ça, faire plusieurs essais, des tentatives variées sur un truc, quitte à revenir en arrière s'il le faut. Vous n'avez jamais vu annuler, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand je fais une bêtise, je repeins par-dessus. Parce que ça, c'est la certitude de remettre de la matière de la main. Parce que la seule chose qui compte, c'est ça et ça. L'ordinateur, le papier, les tubes de couleur, les pixels, tout ça, c'est la même chose. C'est une matière qu'on doit mettre en vie avec notre œil, notre cerveau et notre main, quoi. Avec l'ordinateur, c'est une matière très sèche, très parfaite. À la limite, l'ordinateur sait faire un truc, il sait faire à la perfection des carrés, des aplats, etc. Avant, sur la couleur, c'était les trucs les plus durs à faire. Donc, il y a eu une sorte d'inversion complète. Donc, à l'ordinateur, on doit utiliser sa main plus que jamais à cause de ça.
Une dernière question.
Ah oui.
J'avais deux petites questions, en fait, en relation avec ce que vous venez de dire. Est-ce que vous utilisez des formes ou des lignes droites ? Ou est-ce qu'au contraire, vous faites vraiment tout à la main ?
J'essaye de faire à la main. Et il m'arrive de m'appuyer sur des lignes droites. Genre de tracer la ligne droite et puis de la reprendre à la main et d'en effacer une partie de la ligne droite. Oui. Je faisais déjà ça sur papier avant. Où je faisais un trait à la règle que j'abîmais après pour... Voilà, donc c'est... Je vois pas de raison de me priver de choses. Le seul truc, c'est que la main doit toujours intervenir à la fin dessus, quoi. Je vais laisser aucun centimètre carré à la machine. Elle est chiante, la machine, quoi. Elle a aucun intérêt, elle fait des maths, quoi. Enfin, c'est...
Alors, on a vu ce qui se passait au bord de la tablette et au bout de la main. Et donc, pour savoir ce qui se passe entre le cerveau et la main, je vous invite à retrouver Denis sur cette même scène samedi en début d'après-midi. Comme ça, on en parlera un petit peu plus et on saura ce qui se cache derrière cette paire de lunettes. Je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à Denis et puis je remercie Denis.